IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la radio d'Île-de-France en Val-d'Oise et sa fréquence en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+ pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci à vous toutes et tous d'être avec nous en direct jusqu'à 11h. De l'accompagnement des projets de vie à la transition écologique, en passant par la redécouverte de notre patrimoine et l'animation sportive, il prouve que l'économie peut rimer avec sens et solidarité. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025, retrouvons ces actrices et acteurs engagés du Val d'Oise qui redessinent les contours d'une économie locale, inclusive et durable. Une économie au service du vivre ensemble. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Ranson-Lenoble. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Jacqueline.
Co-fondatrice de Chemin Inédit, une organisation d'événements ludiques et conviviaux qui permettent de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine autrement. Merci d'être avec nous, Marie-Hélène. À vos côtés, Magali Lédier. Bonjour Magali.
Bonjour Jacqueline.
Alors Magali, vous êtes facilitatrice de choix de vie, FCV, un dispositif d'assistance au projet de vie du Val d'Oise, DAPV 95, financé par l'ARS d'Île-de-France et porté par l'association mutuelle La Mayotte à Montlignan.
Oui, tout à fait.
Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, Aurélie Tourette. Bonjour Aurélie.
Bonjour Jacqueline.
Fondatrice de EcoActitude, toujours en transition écologique des particuliers, mode de vie zéro déchet et votre fameux Do It Yourself.
C'est ça, exactement.
Et à vos côtés, quand même, un invité au masculin, Hugo Legac, fondateur de l'entreprise All Esport, spécialisée dans l'animation sportive. Bonjour Hugo.
Bonjour à tous.
Bienvenue à tous les quatre dans l'économie en direct, une émission spéciale dédiée à ceux qui osent repenser notre quotidien.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et je me tourne tout de suite vers vous, Marie-Hélène Ranson-Lenoble. Alors, peut-être une petite piqûre de rappel pour nous dire qui vous êtes et comment sont nés les chemins inédits.
Avec plaisir. Les chemins inédits sont nés il y a 4 ans. Nous avons cofondé cette petite structure avec une amie d'enfance et désormais associée, avec qui nous partagions depuis longtemps la même passion d'événements ludiques, conviviaux et destinés à faire de la pédagogie culturelle finalement, en redécouvrant les sites autour de nous, en aiguisant l'observation, le sens de la curiosité. Des personnes qui peuvent passer devant des choses parfois intéressantes et qui ne les voient plus parce que ça fait partie de leur quotidien. Et Chemins Inédits aujourd'hui propose près de 70 parcours essentiellement en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et un petit peu dans l'Oise, en Normandie et en Bretagne. Et ces parcours ont la particularité de pouvoir être faits en autonomie grâce à un média tout simple qui ne demande aucune préparation, c'est le smartphone, puisque on accède aux questions, on peut y enregistrer les réponses, on obtient un score et même un classement si on est en compétition entre équipes via donc ce smartphone. Et puis on travaille également beaucoup, et je dirais principalement aujourd'hui, avec des organisations professionnelles, que ce soit des associations, que ce soit des établissements d'enseignement ou des entreprises au titre de team building, comme une façon en fait de recréer du lien.
Oui, très bien. Oui, c'est ça. L'important, c'était de resserrer des liens quand l'actualité peut rendre morose, comme c'est un petit peu le cas en ce moment.
Absolument.
Et puis, l'importance aussi de travailler en réseau.
Oui, c'est absolument. C'est une façon de faire, une façon de travailler que nous avons toujours privilégiée et qui nous a donné de bons résultats finalement, puisque chacune sur notre territoire, Sophie est étant revenue sur nos terres natales en Nouvelle-Aquitaine, moi étant installée donc en Val d'Oise avec tout le potentiel patrimonial que ça représente, eh bien nous travaillons beaucoup en réseau avec toutes sortes de partenaires, avec toutes sortes d'institutions, et on a pu se rendre compte que via le partage de pratiques, via l'établissement de liens privilégiés, on arrive à faire plein de choses ensemble, et c'est aussi un des points que je voulais évoquer ce matin. Je crois que vous avez reçu récemment une des fondatrices d'un établissement dont je parlerai plus tard.
Oui, voilà, oui, on va y revenir. Je voudrais qu'on se concentre un petit peu plus sur Chemins Inédits. Combien de temps vous faut-il pour préparer un parcours ?
Alors, en fait, paradoxalement, quand on ne connaît pas du tout un terrain, on va plus vite. Parce que on ne se laisse pas influencer par les idées qu'on en a, en réalité, on part vraiment d'une recherche documentaire pour savoir quels sont les points d'intérêt. On va sur le terrain pour identifier si ces points d'intérêt présentent des éléments d'observation, parce que bien évidemment, on peut pas faire deviner l'histoire d'un personnage ou les aventures d'un bâtiment s'il n'y a rien à l'appui de l'observation. Ensuite, on établit donc le parcours et on met en scène en quelque sorte de façon ludique avec toute la panoplie de jeux de mots, rébus, charades, énigmes, mots croisés, mots mêlés, etc. Et donc en fait pour un terrain qu'on ne connaît pas du tout, tout mis bout à bout, ça peut être à peu près 2 à 3 jours de travail. Pour un endroit qu'on connaît très bien, il va falloir être très sélectif et ne choisir que les éléments qui servent l'itinéraire. Et là, paradoxalement, ça peut être un peu plus long. Disons que en général, quand on nous demande de faire des parcours sur mesure ou de personnaliser des parcours, ce qui arrive quand même de plus en plus souvent, on demande entre 15 jours et 3 semaines de délai, parce que en fonction bien entendu de notre plan de charge à ce moment-là, parce que nous animons aussi sur le terrain lorsque c'est nécessaire, nous pouvons avoir besoin d'un peu plus de temps.
Oui, ce qui est 2-3 semaines, c'est pas non plus 6 mois, quoi. Donc
pas du tout. Mais c'est la souplesse finalement de notre activité, puisque concrètement, à part l'observation sur le terrain et le fait de mettre en scène de façon ludique, de vérifier évidemment toutes les informations qu'on met à disposition et de numériser tout cela, finalement, c'est surtout un travail qui se fait dans notre tête et avec notre PC.
Et un parcours, lui, sur place, prend combien de temps ?
Alors, c'est très variable. Disons que on ne propose pas de parcours à moins d'une heure, tout simplement parce que même si ça n'est pas une application, c'est un site interactif, mais ça fonctionne de la même façon, même si c'est très intuitif, il faut quand même un tout petit temps d'accoutumance pour comprendre comment ça marche, comprendre qu'on peut en savoir plus en cliquant à un certain endroit au moment de la question, ce genre de choses. Et donc, il y a un petit temps d'accoutumance pour que toute l'équipe, puisque c'est par essence un jeu d'équipe, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, puisse se mettre au diapason. Et donc, si on prend les 10 minutes de démarrage, et puis si on prend le quart d'heure final pour enregistrer les localisations des photos qu'on a dû identifier tout au long du parcours, on ne peut pas faire un itinéraire à moins de 30 ou 45 minutes. Donc, vraiment, le minimum, c'est une heure, mais on a des parcours qui durent toute la journée.
D'accord.
On a des parcours qui peuvent durer 3 heures si on fait un circuit à vélo. Voilà.
Oui, c'est vraiment du sur-mesure.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez donc, on a bien compris, vous avez augmenté votre éventail de choix, puisque quand je vous avais reçu les fois précédentes, je crois pas que vous ayez autant de parcours. Donc bravo.
Merci.
Est-ce que des entreprises, puisque vous faites du team building, vous demandent un parcours en particulier ?
Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Certaines entreprises utilisent un parcours qui existe déjà, mais nous demandent de l'adapter, soit parce que le point de départ n'est pas au bon endroit par rapport au lieu, par exemple, où ont lieu les ateliers de travail, ou ils préféreraient que ça se termine plus près de l'endroit où il va y avoir un afterwork, ou ils souhaiteraient, dans le cadre, par exemple, de l'intégration de nouveaux embauchés, qu'il y ait quelques questions qui soient relatives à l'entreprise elle-même. Donc, ça, c'est tout à fait faisable, on adapte. Et il y a aussi des entreprises qui souhaitent tout simplement avoir un moment ludique dans l'organisation demande d'un séminaire dont ils ne savent pas toujours au départ où il va avoir lieu.
D'accord.
Et donc, en fonction du lieu, on peut être amené à créer un parcours sur mesure de façon à tirer parti de la meilleure façon possible, du patrimoine du lieu, que ce soit le lieu d'hébergement lui-même ou que ce soit les alentours, un petit village par exemple, comme ça a été le cas récemment dans le 95 autour de Maffliers. Voilà, l'hôtel en lui-même et son environnement sont intéressants en soi, mais il ne suffirait pas à nourrir un parcours avec parfois 90 ou 100 personnes. Et donc, on se promène dans le village, c'est une ancienne villégiature du 18e et il y a plein d'anciennes demeures et de manoirs absolument incroyables.
Donc un vrai succès après 4 ans.
Oui, j'avoue que je suis assez contente et même presque agréablement surprise de la manière dont ça fonctionne.
Non, je pense que c'est parce que vous y mettez tout votre cœur et c'est de qualité forcément. Donc,
merci Jacqueline, ouais. Merci.
Je propose qu'on marque une pause, on va écouter Belle Demoiselle avec Christophe Maé et on reprend cette interview. Je vous demanderai quels sont vos besoins professionnellement. Merci.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, topé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci. Je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle disparaît dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle, oh non, qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, j'accueille Magali Lédier, facilitatrice directrice de choix de vie pour le projet DAPV 95, Marie-Hélène Ranson-Lenoble, cofondatrice de Chemins Inédits, Hugo Legac, cofondateur de l'entreprise Olé Sport, et Aurélie Tourette, fondatrice de Ecoattitude. J'ai tout dit dans le désordre, mais voilà, c'est pas grave comme ça. On se demandera qui écoute bien à la radio. Alors, Marie-Hélène Ranson-Lenoble, on a compris que votre formule était vraiment gagnante dans ce projet. J'ai le sentiment en plus que vous ne devez pas être trop, ne pas avoir trop de concurrence. C'est-à-dire, c'est vraiment un projet unique.
Non, c'est pas tout à fait vrai. Vous nous faites beaucoup d'honneur. En fait, si bien sûr, il y a un certain nombre d'entreprises ou de petites entreprises qui travaillent déjà sur format ludique de ce type. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir le faire en autonomie, de façon numérisée, et notamment pour une cible de particuliers, c'est beaucoup moins fréquent. Donc de ce fait, le fait de proposer en quelque sorte à la fois une formule particulière en autonomie et une formule B2B avec accompagnement, avec personnalisation, avec éventuellement un avant et un après, puisque généralement, évidemment, quand on déplace 50 ou 80 personnes, on ne se contente pas juste d'un parcours d'une heure et demie. Donc ça, c'est une particularité, je pense, qui n'est pas si répandue que ça.
Oui, voilà. Oui. Quels sont les retours des participants après ces expériences?
Alors écoutez, c'est toujours un grand plaisir quand on accompagne. Bien sûr, on ne le sait pas toujours quand on n'est pas là. Quand ils font ça tout seuls en famille, par exemple, mais souvent ils nous font des retours. En tout cas, quand on est sur le terrain avec eux et qu'on participe, c'est toujours un plaisir de voir les gens finalement redécouvrir un peu leur âme d'enfant, se prendre au jeu, rentrer dans la partie un peu compétition,
oui,
mais
ça,
bon enfant, puisqu'il s'agit évidemment pas de cacher des indices pour que
ça ne
se trouve pas.
On a envie de trouver l'indice le premier.
Voilà, et donc ils regardent où sont les autres pour éviter qu'ils ne soient suivis. Quand ils ont l'impression d'avoir découvert enfin quelque chose qu'il fallait observer, vite, ils le regardent et puis ils se dispersent pour pas que les autres les voient faire. Enfin, c'est très amusant.
Ah oui, on trouve son âme d'enfant.
Oui, tout à fait. Et à la fin, en général, quand on est sur place et qu'on nous a donc demandé une animation, dans ces cas-là, souvent, on annonce le classement. Parfois, on distribue même des récompenses. On a des grosses médailles type olympique à donner aux membres de l'équipe gagnante. Et vraiment, ils sont tous très contents. J'ai un exemple tout à fait récent où ils étaient assez nombreux. Donc, le manager principal de ces équipes était là. Il savait exactement ce qu'on allait faire et il jouait tout à fait le jeu. Mais à la fin, il trouvait que vraiment, ils étaient un peu trop accroché au score des uns et des autres. Il dit, bon, allez, on reprend le travail, là, c'était la récréation, mais maintenant...
C'est
voilà.
Ça, du coup, il n'arrivait plus à fédérer ses troupes.
Voilà, ouais,
en tout cas, vers lui.
C'était rigolo, oui.
Merci, Marie-Hélène. Alors, professionnellement, quels sont vos besoins? Puisque je pense que vous avez envie de progresser encore plus.
Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'adorerais, et on va sans doute en parler plus tard, parce que finalement, une démarche récente s'inscrit tout à fait là-dedans, c'est pouvoir travailler en partenariat avec des personnes qui sont compétentes dans le domaine événementiel de façon plus large que moi, parce que c'est typiquement une activité qui peut prendre place dans le cadre d'un événement professionnel notamment, mais même d'un événement personnel. Parfois, il m'arrive de trouver des solutions pour l'avant-après. Ce n'est pas mon métier, c'est pas là où je suis le plus compétente. Je suis toujours en attente et en demande de développer des partenariats avec des agences événementielles, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Un autre besoin qui me paraît vraiment important, c'est d'arriver à mieux travailler avec les établissements d'enseignement. C'est déjà une expérience qu'on a, que ce soit dans des collèges pour, avec l'aide des professeurs encadrants, réviser par exemple un programme d'histoire lors de la sortie de fin d'année et aller sur place.
C'est tellement plus parlant.
Voilà, tout à fait. Mais c'est aussi tout simplement pour des lycées professionnels, comme on est en train de le faire à Saint-Ouen-l'Aumône ou à Osny. créer du lien et donner une occasion à des jeunes qui vont bientôt être en situation de recherche professionnelle, de découvrir leur environnement sur un plan presque administratif d'une certaine façon. À quoi sert un conseil départemental? À quoi sert une caisse primaire d'assurance maladie? Ça peut paraître étrange, mais si on le fait sous forme de jeu, ça peut être très instructif. Et puis aussi dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est une façon d'accueillir les promos et d'intégrer les jeunes, de leur permettre de rencontrer finalement leurs futurs camarades de cours et puis de découvrir un environnement qu'ils ne connaissent pas du tout et où ils vont passer quand même quelques temps.
Je m'adresse à Magali Lédier. Vous pensez que ce type de de parcours pourrait intéresser votre structure?
Alors, je ne peux pas répondre tout de suite parce qu'en fait, nous, on répond à une demande d'une personne.
Oui,
donc effectivement, ça pourrait...
Il faudrait que vous arriviez à fédérer vous aussi plusieurs personnes le projet.
Exactement. Ouais. Mais je découvre en tout cas...
je vois que ça vous plaît beaucoup. Oui. Je vous vois au cabinet du chef quand Marie-Hélène parle.
J'écoute attentivement.
Merci Magali Lédier. Marie-Hélène... L'avantage aussi de ces parcours, c'est que ça peut, vous dites, on peut faire des choses très sympas avec des moyens modestes, puisque c'est à la carte, et donc vous adaptez vos budgets.
Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, à l'origine, notre business plan, pour employer des mots utiles, en fait, était basé vraiment sur un tarif destiné à des particuliers. Et donc, notre souhait, c'était de proposer un loisir facile, proche et accessible à n'importe qui. Donc, grosso modo, ça répondait à un tarif de 10 ou 12 euros par personne selon la longueur du parcours, ce qu'on estime à peu près être le prix d'une place de cinéma. Évidemment, ça, c'est pour une formule tout à fait en autonomie, c'est-à-dire que les personnes s'inscrivent sur le site, payent en lien de façon sécurisée, ont tous les éléments qui leur permettent de connaître le point de départ, les éléments utiles, se rendent donc sur place et puis font le parcours en toute autonomie. Lorsque nous personnalisons, lorsque nous créons un fortiori sur mesure ou lorsque nous sommes présents sur le terrain, évidemment, il y a des coûts supplémentaires liés à l'animation, liés à la modification du parcours. Mais globalement, comme il n'y a besoin de rien d'autre... Oui. que de l'intelligence collective et de son smartphone, finalement on est très concurrentiel pour des prix de team building. Et en particulier, on travaille beaucoup avec des PME voire des TPE parce que c'est une façon très simple et très facile de créer du lien, de resserrer l'esprit d'équipe avec une activité, surtout si on la fait autour de chez soi ou autour de son bureau, qui prend pas longtemps et qui utilise un budget qui est très modeste.
Et dont on garde un super souvenir, j'en suis persuadée. Alors Marie-Hélène, on vient à la nouvelle dont vous vouliez parler, c'est-à-dire que j'ai reçu Alice Adrin il y a quelques jours, qui a fondé Event Circle.
Avec Christophe Saint-Denis, oui, tout à fait.
Christophe Saint-Denis. Et vous, Aurélie et Hugo, faites partie de Event Circle. Donc Aurélie et Hugo, je reviendrai plus longuement avec vous tout à l'heure sur cette association. Je crois savoir d'ailleurs que vous avez fait un parcours, il me semble, avec Marie-Hélène. Il n'y a pas eu un parcours avec Event Circle?
Alors au titre d'Event Circle, pas encore, mais
pas
comme
encore.
La plupart des membres, l'impression. Nous connaissons déjà et nous sommes croisés, recroisés à divers titres. Voilà.
Je pensais que ça avait eu lieu. Donc, expliquez-nous, vous, votre intérêt d'avoir rejoint Event Circle.
Alors, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure en début d'entretien, moi j'aime beaucoup travailler en réseau parce que c'est très riche. C'est le cœur même de notre business, mais je trouve qu'à titre même personnel et professionnel, l'intelligence collective, c'est ce qui nous porte en fait. Ça nous permet d'échanger, de partager nos pratiques, d'être solidaires quand on peut ressentir éventuellement l'isolement de l'entreprise. l'entrepreneur. Et donc, il se trouve que le Val d'Oise est un département extrêmement riche économiquement sur le plan de l'entrepreneuriat et sur le plan des réseaux en tout genre. Donc, je participe à beaucoup de réseaux et je me suis toujours sentie un petit peu frustrée, entre guillemets, de la difficulté d'expliquer notre métier à des personnes qui ne le connaissent pas ou qui ne comprennent pas forcément ses tenants et aboutissants. Et Alice Sadrin et Christophe Saint-Denis, que je connaissais par ailleurs, justement dans d'autres réseaux, quand ils ont proposé donc cette idée de ne réunir que des gens autour de l'événementiel pour justement accentuer les possibilités de partenariat, les possibilités d'offres communes entre gens qui comprennent finalement le même langage, les mêmes contraintes. J'ai trouvé l'idée formidable et c'est une association qui est relativement récente hein, puisqu'elle a à peine un peu plus d'un an. Mais on est déjà plus de 25 l'ambiance est très sympathique. On se retrouve au moins une fois par mois à l'occasion d'une réunion et puis voilà, on travaille sur plein de projets communs et vraiment moi à titre personnel j'en suis ravie.
C'est ça, vous arrivez à regrouper vos forces individuelles pour en faire une force collective et proposer des projets qui n'auraient peut-être pas eu lieu, qui n'auraient pas vu le jour si vous étiez resté isolé.
Tout à fait, ou en tout cas qui nous auraient demandé des recherches tout en n'étant pas complètement sûr des références qu'on pouvait donner. Là on apprend à se connaître pour être en situation justement de recommander les uns et les autres. On peut travailler sur des projets avec voilà, sollicitant 2, 3, 4 ou 5 d'entre nous avec chacun ses compétences. On peut également tout simplement, dans le cadre des relations commerciales que chacun peut avoir ou professionnelles, promouvoir voilà, les talents de nos congénères parce que on entend qu'il y a tel besoin qu'on peut pas nous satisfaire, mais dont on sait très bien que Hugo, Aurélie ou d'autres vont pouvoir satisfaire. Donc c'est voilà, je trouve ça très positif.
Donc une belle idée de Alice et Christophe.
Tout à fait.
Donc je ne sais pas si je vous laisse nous en parler ou je donnerai peut-être la parole plus longuement à Hugo et Aurélie pour les illuminations de Noël au centre de Paris.
Alors ça n'est pas un projet commun.
Ça
n'est pas un projet commun, tout à fait. Effectivement, c'est mon actu du jour. Tout le monde sait que Paris, comme beaucoup de grandes villes, se pare de mille feux à l'époque des fêtes. Il y a la possibilité donc d'aller voir tout simplement avec les enfants les vitrines des grands magasins et leurs animations. Mais en fait, là, cette année, nous avons décidé de faire un parcours lié justement au lieu symbolique des illuminations. Alors ça se fait forcément de nuit ou en tout cas quand le soir est tombé pour pouvoir profiter de ces illuminations. Donc le sens de l'observation va quand même être un peu diminué parce que on a du mal à voir un mascaron sur une façade quand il fait nuit. Sachant que par quartier, si vous voulez, les dates sont un peu différentes. On commence toujours par l'inauguration des Champs-Élysées qui va avoir lieu dimanche puisque c'est le 16 novembre. Après, selon les quartiers, ça peut être à des dates différentes. Donc, à partir du 1er décembre, on ouvre un parcours qui va durer maximum 1h15, 1h30 et qui est destiné donc à voir les beaux quartiers, entre guillemets, autrement, les illuminations de Noël.
C'est une bonne idée. Bravo pour ce nouveau parcours donc, qui vient alimenter tous les autres.
Merci, Jacqueline.
Marie-Hélène, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée?
Pas du tout. Non, j'ai avoir l'occasion de dire tout ce que je voulais.
Merci infiniment de nous rappeler que le patrimoine est une richesse à partager et à vivre ensemble avec créativité et convivialité.
Merci
Marie-Hélène et puis merci d'avoir pu venir ce matin petit peu à l'arraché. Merci. Et ben on va faire une petite respiration musique avec cette fois Daniel Balavoine et son fameux blues du businessman et on revient juste après.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin j'accueille plusieurs invités, tous passionnés par leur activité. Magali Lédier, facilitrice de choix de vie, un dispositif d'assistance au projet de vie du Val-d'Oise DAPV financé par l'ARS Île-de-France et porté par l'association mutuelle La Mayotte à Montlignon. Aurélie Tourette, fondatrice de Ecoactitude, qui est dans la transition écologique des particuliers, le mode de vie zéro déchet et le do it yourself. Et Hugo Legac, fondateur de l'entreprise All Esports, spécialisée dans l'animation sportive. Alors Magali Lédier, j'ai eu le plaisir en préparant ce dossier de découvrir donc votre activité. Je vous laisse déjà vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs et puis nous dire ce qu'est le dispositif d'assistance au projet de vie.
Merci beaucoup Jacqueline. Oui, donc je suis donc Magali Dédier, facilitatrice de choix de vie. Donc j'occupe cette fonction depuis une année. L'année écoulée aussi et d'existence est aussi celle du DAPV. Il est très récent sur le département du Val-d'Oise. Donc moi personnellement, mon parcours est assez varié dans le sens où j'ai été dans un premier temps, j'ai fait une carrière dans le secteur tertiaire en tant qu'assistante de gestion, assistante RH et autres. Et j'ai fait une reconversion professionnelle en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Et j'ai eu l'opportunité d'aller sur ce métier de facilitatrice, ce nouveau métier de facilitateur de choix de vie l'année dernière. Et ce métier, voilà, il faut savoir que quand on accepte d'exercer ce métier, on accepte aussi de se former parce qu'il y a une certification professionnelle à passer au CNAM Paris, le CNAM Entreprise Paris. Et donc c'est une formation qui se déroule sur à peu près 9 mois à raison de 3 jours par semaine en présentiel. Et il y a aussi 2 semaines de stage à effectuer dans un DAPV où il y a déjà des facilitateurs certifiés ou des assistants de projet et parcours de vie à des APPV, parce qu'effectivement, il y a aussi cette dénomination qui existe sur d'autres régions.
Oui, il y a beaucoup d'acronymes hein, ces organisations.
Énormément, et c'est vrai qu'il faut les connaître pour s'y retrouver. Donc voilà, cette formation est complète, puisqu'on a vraiment un apport théorique sur la posture de conduite de projet, puisqu'on est là pour accompagner des gens dans des projets. Et aussi des intervenants de terrain qui sont soit anciens facilitateurs, soit sociologues ou autres. Et c'est vrai que c'est très complet puisqu'on a dans cette approche théorique et aussi cette approche de terrain qu'on va soit aussi expérimenter parce qu'on est déjà en poste ou parce qu'on va aller faire des stages dans des DAPV certifiés.
C'est ça. Alors, le DAPV, c'est un service gratuit hein, de proximité destiné aux personnes. Alors, il se trouve que la semaine dernière, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Madame Gillot, ministre qui a été ministre au handicap sous Monsieur Jospin. Et elle réfute un peu l'expression personne en situation de handicap. Elle préfère personne avec handicap.
D'accord.
Elle trouve que c'est plus que c'est plus parlant et que c'est moins discriminatoire.
Oui, donc je comprends, c'est une façon de dissocier le handicap de la personne, de ce qu'elle est.
C'est ça.
Tout à fait.
Donc on va dire personne avec handicap, si ça vous dérange
avec
pas.
Avec plaisir.
Donc voilà, le DAPV est donc ce service gratuit de proximité qui est destiné aux personnes avec handicap. Et c'est pour les soutenir hein, dans la réflexion, la formulation, la formalisation de leur projet de vie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis?
Oui, alors j'ai un exemple en tête. C'est la première situation que j'ai eue qui n'est pas du tout représentative des situations qu'on peut avoir dans le DAPV, parce que c'était une personne qui nous appelait en situation d'urgence, une rupture d'hébergement. Et c'est vrai que le DAPV n'est pas amené à accompagner des personnes en situation d'urgence. On travaille pas dans l'urgence. Et mais voilà, cette personne était vraiment en demande de soutien. Et c'est à ce titre qu'on a accepté de l'accompagner. Et voilà, on a fait vraiment un travail de remise en lien avec, parce qu'elle était en rupture d'hébergement, mais pas seulement, en rupture de lien avec la commune, en rupture de lien de soins. Donc on l'a accompagnée quelques semaines, quelques mois dans cette remise en lien. Et cette remise en lien a été fructueuse puisque il lui a été proposé un hébergement. Après voilà, on n'a pas travaillé sur son projet à proprement parler, mais en tout cas on a rempli notre mission d'accompagnement et de soutien et d'accès aux droits. Donc
c'est ça, parce que ce dispositif d'assistance au projet de vie DAPV, c'est un levier hein, pour l'exercice des droits fondamentaux des personnes.
Exactement.
Avec handicap.
Oui, oui, pour que les personnes avec handicap puissent prendre totalement leur place en tant que citoyens et puissent accéder à comme tout un chacun, au droit commun, au droit spécialisé bien sûr, mais au droit commun surtout.
C'est ça. Je m'adresse à Aurélie et à Hugo. Vous connaissiez ce dispositif l'un et l'autre ?
Ah non, pas du tout. Non. Là, je viens de l'apprendre, de le découvrir. Oui, non, c'est, on en découvre tous les jours et c'est très très bien comme dispositif.
Qu'on puisse, qu'on puisse agir de cette façon. Donc un dispositif qui a été mis en place par l'Agence régionale de santé, l'ARS Île-de-France, qui finance et pilote ce déploiement de DAPV.
C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, le DAPV a été, alors je fais un petit point d'histoire rapide, expérimenté. Donc le dispositif d'assistance au projet de vie a été expérimenté de 2016 à 2021 sur trois grandes régions. C'est Nouvelle-Aquitaine, PACA et Grand Est. Et en 2021-2022, il a été décidé qu'il allait être déployé sur l'ensemble du territoire. Alors, toutes les régions ne sont pas encore pourvues, mais c'est une finalité, en tout cas. Et l'Île-de-France, donc, ça fait, on va dire, 3 ans qu'elle développe le DAPV. Et sur l'Île-de-France, à part le département du 92, tous les départements sont pourvus.
Très bien. À qui s'adresse-t-il, ce dispositif ?
Il s'adresse aux personnes avec handicap, déjà. Aux personnes en grande vulnérabilité et aux proches aidants. On a beaucoup de proches aidants qui nous contactent parce qu'il faut savoir que l'accès au dispositif est, vous l'avez dit, gratuit puisqu'il est financé déjà par l'ARS Île-de-France. Il est gratuit et sans notification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'y avoir une reconnaissance du handicap pour demander notre soutien ou notre accompagnement.
Oui, handicap visible ou invisible. Hein,
c'est effectivement. Ça. Et on a, pour l'instant, toutes nos situations sont du handicap plus invisible. Dans le sens où, quand on voit la personne dans la rue, on ne va pas se dire cette personne est avec handicap. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont des troubles psychiques, qui vont ou pas accompagnées d'une déficience intellectuelle. Et donc voilà, c'est surtout des personnes empêchées dans leur dynamique quotidienne, en fait.
C'est ça. Magali, on fait une courte pause et puis on reprend ce débat. Merci à vous.
Merci.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
IDFM, c'est l'économie en direct. Je suis actuellement avec Magali Lédier, facilitatrice de choix de vie. C'est pas facile à dire.
Non, c'est pas facile.
Un dispositif d'assistance au projet de vie du Val d'Oise, le DAPV 95. Alors, Magali, on a compris que ce dispositif est un appui personnalisé, centré sur les aspirations de la personne, en tenant compte de ses besoins et de ses contraintes dans tous les domaines de vie.
Oui.
Qui sont les professionnels comme vous du DAPV ?
Alors, actuellement, nous sommes 2 personnes sur le dispositif d'assistance au projet de vie, en sachant que l'équipe grossira en fonction de ce qu'on appelle la file active, donc des personnes qui ont demandé le soutien du dispositif. À titre d'exemple, les DAPV historiques de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il y a 7 associations qui gèrent un bout du dispositif pour 17 APPV.
D'accord. Parce
que, en Nouvelle-Aquitaine, ce sont des APPV, des assistants au projet et parcours de vie. Et qui sont donc les professionnels? Eh bien, ce sont des personnes. Alors, je ne sais pas si vous me posez la question d'un point de vue cursus professionnel ou.
Dites-moi ce que vous avez envie de me dire.
J'allais vous dire que c'est des personnes qui sont sensibles.
Voilà, de bonne volonté et qui ont envie de.
Qui ont envie de.
D'accompagner.
D'accompagner, de soutenir et de contribuer à ce que la société soit réellement inclusive. Et que toute personne soit un citoyen.
C'est ça, que certaines personnes qui sont aujourd'hui laissées sur le bord de la route ne le soient plus.
Voilà. Sur le bord de la route et mise à l'écart de la société.
Oui, c'est ça. Et donc, vous vous appelez des faciliteurs ou facilitrices.
C'est bien ça.
Pour justement des, enfin, voilà, vous donner un nom, quand même particulier.
Oui. Excusez-moi, je fais juste une petite aparté. Ce nom, en fait, il a été pensé pour se dissocier du médico-social.
Ah, d'accord.
Parce que comme on n'est pas un établissement, on nous oriente pas les personnes. Les personnes viennent chez nous parce qu'elles le souhaitent. Cette dénomination a été pensée vraiment pour nous différencier du médico-social, pour compléter.
Je comprends.
Le médico-social.
Je comprends. Oui, vous devez avoir une posture neutre, bienveillante, respectueuse. Être un partenaire de confiance et puis surtout avoir une écoute active, sans jugement, pour veiller à créer un espace de dialogue sécurisant.
Exactement, sans jugement. Donc on le dit à chaque fois qu'on rencontre une personne, on lui dit on ne va pas vous évaluer, on ne va pas évaluer votre handicap, ce n'est pas notre objectif, et on ne va pas évaluer votre projet, votre désir. On va écouter ce que vous nous dites et puis on va vous soutenir pour savoir comment réaliser votre souhait, votre envie, et si ce n'est pas possible, comment on peut trouver d'autres réponses qui pourraient vous convenir.
Comment peut-on vous contacter, Magali?
Alors, dans la première porte d'entrée, c'est la communauté 360 qui est rattachée à la MDPH du Val d'Oise. Donc, la communauté 360, c'est un numéro unique national, c'est le 0800 360 360. Il faut tout simplement demander à être orienté sur un dispositif. Mmh. Et donc, en fonction du lieu où on habite, la personne sera orientée sur le dispositif le plus proche.
Ouais.
Ou du département, et s'il n'existe pas sur le département, le plus proche. Et après, nous avons également un accès plus direct par mail, parce qu'après, les numéros de portable sont individuels à chaque professionnel. Donc, le mail du dispositif du Val d'Oise, c'est secrétariat@dapv95.fr.
Très bien, bon, des coordonnées qui se retrouveront sur le podcast de l'émission. Aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que dans quelques jours, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a un acronyme aussi, SEEPH, du 17 au 23 novembre 2025. Et puis, le fameux mercredi 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous, en tant que dispositif départemental, on participera à des événements organisés par des communes ou par des communautés d'agglomération. Et c'est vrai que c'est l'occasion, en tout cas, de nous faire connaître,
c'est ça,
de rencontrer. Oui, d'éventuels partenaires et d'expliquer notre complémentarité sur le territoire.
En tout cas, nous, chez IDFM, on est tout à fait prêts à relayer vos événements, donc n'hésitez pas à nous les faire connaître et on sera ravis de pouvoir vous donner plus de visibilité.
Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir de rencontrer les auditeurs de IDFM Radio.
Est-ce que vous avez des besoins?
Les besoins, oui, c'est de continuer à se faire connaître, à ce que les gens sachent qu'on existe, sans forcément faire appel à nous, mais voilà, qu'ils puissent transmettre
le concept du dispositif.
Voilà, autour d'eux, et que ça, qu'éventuellement des gens qui ne nous connaissent pas puissent se dire, mais oui, pourquoi pas?
Bien sûr.
Ça pourrait m'aider.
Bien sûr. Bah, écoutez, merci infiniment et puis bravo pour cet engagement qui est très noble.
Merci.
Merci à vous. Magali Lédier, donc pour ce rôle de facilitrice de projet de vie et puis pour un travail essentiel qui doit donner espoir et autonomie à bon nombre de personnes.
C'est ça. C'est plutôt aussi l'idée de s'émanciper.
C'est
voilà,
ça.
C'est de pouvoir choisir par soi-même et pour soi-même.
Très bien. Merci infiniment. On s'arrête quelques minutes en compagnie de Julien Doré et Francis Cabrel qui ont repris le titre de William Scheller, Un homme heureux, mais restez à l'écoute, on revient tout de suite après.
Pourquoi pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct. Merci d'être resté avec nous dans cette émission qui met à l'honneur Magali Liédier, facilitrice de choix de vie FCV, un dispositif d'assistance au projet de vie du Val d'Oise, DAPV 95, financé par l'ARS Île-de-France et porté par l'association mutuelle La Mayotte à Montlignon. Aurélie Tourette, fondatrice Éco-Attitude, transition écologique des particuliers, mode de vie zéro déchet et le do-it-yourself. Hugo Legac, fondateur de l'entreprise Olé Sport, spécialisée dans l'animation sportive. Et nous avons pu entendre en début d'émission Marie-Hélène Ranson-Lenoble, cofondatrice avec son amie Sophie de Chemins Inédits. Alors Aurélie, merci aussi d'être là parce que je sais que vous avez rejoint ce fameux groupe de Even Circle. Peut-être nous rappeler ce que vous faites quand même Aurélie et puis vos derniers succès parce que je vous suis de près.
C'est
j'ai
gentil.
Vu que vous aviez des nouveaux succès.
Oui, et déjà merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc moi effectivement je suis fondatrice d'Éco-Actitude. Et en fait, l'idée d'Éco-Actitude, elle est née d'une volonté de montrer à tous que on pouvait reprendre facilement le contrôle sur sa consommation, sa consommation en produits du quotidien. Donc notamment par des ateliers, donc on fait des ateliers DIY, donc do it yourself, où chacun va apprendre à fabriquer ses cosmétiques, ses produits d'entretien naturel ou des objets du quotidien upcyclés. Et tout ça dans le but, de pouvoir consommer plus sainement, plus
plus aussi de façon plus durable en fait, de moins toxique pour l'environnement aussi économique et efficace. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des recettes que moi je crée, que je propose aux personnes en atelier, aux participants, et ce sont des recettes qui sont très simple, avec le moins d'ingrédients possible, évidemment 100% naturel, et les gens, voilà, se rendent compte que fabriquer soi-même,
oui, ils sont surpris, probablement.
Ils sont tout à fait surpris à chaque fois. J'ai des commentaires, ah mais en fait, ça prend 5 minutes. Ben oui, c'est ça, ça prend 5 minutes. Parce que souvent, on a des tutos en ligne.
Ça coûte rien.
Ça coûte une misère. Hein, voilà, comme moi, je prends toujours l'exemple du litre de lessive à fabriquer soi-même, c'est 70 centimes. Hein, donc on peut comparer avec ce qu'on achète. Donc il y a beaucoup d'avantages à faire soi-même, même au point de vue santé aussi également.
Bien sûr.
Moi, c'est comme ça que j'ai eu le déclic il y a 8 ans, en fait. Quand mon fils est né, j'ai voulu avoir des choses bonnes pour sa santé, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si évident. Parce que, voilà, nos produits du quotidien, malheureusement, sont truffés de choses un peu toxiques, que ce soit pour notre santé ou pour notre planète. Donc voilà, c'était plus simple pour moi de fabriquer mes produits plutôt que de les acheter et de chercher les listes d'ingrédients au dos. Donc voilà, aujourd'hui, donc j'anime pour des entreprises, que ce soit pour des team building, des séminaires, ou également j'anime aussi pour des collectivités locales, principalement dans le Val d'Oise, parce que je suis assez ancrée territorialement. Et donc ça peut être avec des centres d'action sociaux, des médiathèques, c'est pour des fêtes aussi. Dans 2 semaines, il y aura le forum zéro déchet, par exemple, oui, à Sannois, du syndicat Émeraude. Donc j'animerai un stand là-bas. Donc voilà. Et puis pour les derniers projets, j'ai eu un dernier très beau projet il y a très peu de temps. C'était avec la Fédération française d'athlétisme qui m'a fait intervenir sur un stand lors de la remise de dossard de la course Maïf Ekiden. Donc là, je leur ai proposé un baume du sportif. C'était un baume avec 4 ingrédients seulement pour tout ce qui est douleur musculaire, crampes, inflammation, donc tout ça avec de l'huile d'arnica par exemple. Et donc ils ont beaucoup apprécié l'idée et j'ai reçu 112 sportifs sur mon stand. Donc j'espère que ça les a aidés après la course.
C'était super
et surtout que c'était quasiment au pied de la Tour Eiffel.
C'est ça.
Donc une vue extraordinaire.
Un bel événement.
Oui.
Un super bel événement.
Voilà, exactement. Bon. Donc, voilà.
Mais j'ai vu, Aurélie, qu'on ne vous arrête plus, hein, puisque vous avez été sélectionnée aussi pour faire partie du programme Anthropia de l'ESSEC de Cergy.
Exactement, j'ai eu la nouvelle très récemment, là, il y a quelques jours. Donc on est 6 projets sélectionnés. Et c'est un accélérateur en fait d'impact pour les entreprises, et notamment là c'est des entreprises du Val d'Oise puisque c'est l'ESSEC de Cergy Pontoise. Et voilà, moi c'est une manière aussi de booster mon impact, notamment sur le territoire du Val d'Oise. J'aimerais vraiment développer encore plus de partenariats avec des acteurs engagés ou avec des collectivités également.
Bien sûr. Non, mais je pense que il y a pas de raison. Vous êtes en pleine, on sent que vous êtes en pleine croissance, hein. Donc
exactement.
Et que vous n'avez que des succès. Alors donc vous avez rejoint Even Circle.
Exactement.
Toujours pour être dans cette dynamique de collectif dont parlait Marie-Hélène.
Tout à fait. En fait, c'est Alice aussi qui est venue me voir l'année dernière pour me parler de son projet.
Oui, vous êtes rencontrés sur le salon Effervescence.
Oui. C'était il y a 2 ans même maintenant. Et effectivement, elle m'a parlé de ce projet qui n'était pas encore construit plus d'un an. Et moi, j'ai tout de suite apprécié cette idée parce que c'est exactement ce que je cherchais en fait. Vraiment un réseau vraiment dédié à l'événementiel, parce qu'il y en a beaucoup sur Paris, mais c'est souvent
ça n'a pas d'intérêt pour vous
Paris. Moi, je voulais vraiment être sur le Val d'Oise. Et puis voilà, les réseaux, j'en ai fait beaucoup. Moi j'ai une activité assez particulière. Du coup, me retrouver avec des avocats, des comptables, des entreprises du BTP, c'était pas cohérent. Ça m'aidait en rien en fait. Donc là, le fait que ce soit tous des prestataires d'événementiel, on peut plus facilement se recommander, faire des synergies. D'ailleurs, on en a une aujourd'hui même avec Hugo, puisqu'il me fait intervenir dans une école.
Ah, très bien.
Voilà, où je vais faire un atelier démonstration pour les enfants. Donc voilà, on a plusieurs synergies qui se sont déjà créées. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance aujourd'hui de m'occuper de la communication aussi d'Event Circle, donc notamment sur les réseaux sociaux, donc sur la page LinkedIn. Et voilà, j'avais vraiment envie de m'impliquer dans cette association.
Dans ce projet qui vous plaît bien. Formidable. Et oui.
Parce que c'est, en plus, c'est vraiment un groupe qui est très convivial, c'est très agréable. On fait du business, mais sans non plus forcer.
Oui, c'est ça se fait naturellement.
C'est en douceur, c'est naturel. Oui. Et voilà.
Comme
c'est
vos produits.
Exactement, c'est ça, bien. J'aime
voilà,
beaucoup.
J'ai trouvé une formule.
Voilà, c'est ça. Je vais la garder, celle-là. Je la note.
Merci infiniment, Aurélie. Alors, vos besoins aujourd'hui, quels sont-ils ?
Et mes besoins, de travailler encore avec plus de mairies encore dans le Val d'Oise. Mmh. Et là, c'est la préparation de tout ce qui est arbre de Noël, animation de Noël en ce moment. Donc, j'aimerais pouvoir travailler avec des entreprises aussi du Val d'Oise, parce que je travaille avec des entreprises de Paris beaucoup. Mmh. Et j'ai du mal à avoir des entreprises du Val d'Oise.
Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi. C'est Paris qui,
c'est curieux.
Effectivement, qui est attiré.
Ça va se faire parce que vous avez...
voilà. Mmh. Pour les arbres de Noël, c'est une animation qui convient à partir de 6 ans jusqu'à 99. Donc vraiment, il faut pas hésiter à me contacter.
D'accord. Bah écoutez,
il me reste de la place.
J'espère que le message va passer. Et puis je pense que vous allez intervenir aussi avec Hugo, à qui je vais donner la parole là assez rapidement. En tout cas, merci Aurélie pour votre inspiration, merci, puis vos solutions concrètes qui prouvent que chacun peut agir pour la planète à son échelle.
Exactement. Merci
à vous.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Hugo Le Gac, alors, donc fondateur de l'entreprise Olé Sport, spécialisée dans l'animation sportive. Je vous laisse vous présenter, Hugo.
Oui, donc Hugo Le Gac, j'ai en effet créé Olé Sport. L'envie tout simplement d'entreprendre depuis de nombreuses années. Puis quand on veut entreprendre, il faut une idée. Déjà, pour commencer. Et donc, moi, je me suis dit, Hugo, qu'est-ce que tu aimes ? Moi, ce que j'aime à titre personnel, c'est le sport. Je suis un sportif. J'aime le commerce. J'ai toujours travaillé dans cet univers-là. Et donc, je me suis dit, il faut trouver une activité qui va lier le sport et le commerce.
Déjà une bonne démarche.
C'est déjà une bonne démarche, qui peut paraître logique, en effet. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile au début. On cherche toujours un peu la bonne idée, l'idée que personne n'a eue, qu'on a du mal à trouver, voire qu'on trouve jamais. Donc, je me suis dit, il faut que tu restes dans ton univers, le sport, le commerce. Et ce que j'avais envie de faire, réellement, un peu l'ADN de Olé Sport, c'était de faciliter la pratique sportive, promouvoir le sport.
Oui.
Je me suis dit, toi, Hugo, ce que tu veux, c'est que les gens fasse du sport, mais
ça
puisse être accessible et facile. Et donc, je me suis dit, tu vas créer une offre qui soit exhaustive, complète, mais surtout créer quelque chose de différent, d'innovant. Et j'ai axé sur la location. En fait, j'ai créé des kits de matériel de sport clés en main, qui sont ludiques, qui sont accessibles. Et je vais chercher des activités sportives qui sont méconnues, qui sont fun et qui sont inclusives.
Alors, vous nous donnez des exemples.
Oui, comme
déjà, pour le matériel.
Pour le matériel, pour le matériel, c'est des kits de matériel clés en main, donc ça peut être sur des sports qui sont classiques, comme par exemple du badminton, de l'ultimate, du basket.
Ah oui.
Mais la volonté, c'est vraiment d'aller chercher des sports qui sont pas pratiqués, et notamment il y a deux sports qui ont été créés par des Français, le homeball. Le homeball, c'est une cage en filet dans laquelle on peut jouer au foot, au pied ou à la main au hand, et on peut aussi jouer en pratique handisport.
D'accord.
En fauteuil roulant.
C'est important.
Et le racquetball, qui est un nouveau sport de raquette collectif créé aussi par des Français. Ça se pratique sur des terrains, donc c'est un sport qui se joue en 3 contre 3. C'est un sport de raquette avec des raquettes en carbone et des balles en caoutchouc. C'est un sport sans contact. Donc on peut vraiment toucher à la fois une mixité et toucher l'inclusion.
Ah oui.
D'accord. Et ce sont des sports qui se pratiquent sur des terrains mobiles. Donc on peut s'installer en intérieur, en extérieur, on touche vraiment tout type de public, des petits à partir des 5-6 ans jusqu'au plus âgé.
Mm-hmm. Et du coup, comment vous arrivez à rendre attractifs ces sports ?
Ah oui,
alors c'est la difficulté.
Comme
c'est pas connu.
On parlait en effet, c'est toujours une question de un peu de communication. Mm. Comment être référencé, comment se faire connaître. Il y a évidemment les réseaux sociaux qui peuvent apporter. Il y a un travail de un peu de prospection, de communication. Et il y a la force, on en parlait des réseaux.
C'est ça.
Réseaux d'entreprises. On a la chance d'avoir en France, mais notamment sur le Val d'Oise, beaucoup de réseaux. Alors, il faut trouver son ou ses réseaux qui nous correspondent. Parce que c'est vrai qu'on intègre un réseau comme par exemple Event Circle, la finalité, c'est évidemment pour faire du business, mais pas que. Un réseau, ça doit être avant tout un endroit où on tisse des liens, où il y a une relation humaine qui s'installe et qui permet ensuite de pouvoir générer de l'activité. Et donc, en intégrant les réseaux comme Event Circle, pour le reciter, bah, ça permet justement de se faire connaître.
Oui, oui, et puis d'apporter vraiment une touche qui peut-être à laquelle Event Circle n'avait pas forcément pensé au départ,
oui.
En vous contactant. Alors c'est Alice qui vous a contacté ou c'est vous?
Et oui, c'est notre fameuse Alice, exactement, que j'ai rencontrée sur un autre réseau, oui, justement, la force des réseaux, c'est justement d'avoir été mis en relation par une autre personne avec le réseau Initiative, qui est un organisme de prêts d'honneur vous connaissez, hein, sur le département. Donc on a été en contact avec Alice et puis je rejoins le réseau. Alors Event Circle, c'est un réseau en effet qui est récent, mais qui est déjà avec un an d'existence très structuré avec des commissions, commission commerce, commission communication dont fait partie et gère Aurélie justement, mais c'est un réseau qui est très convivial, on se réunit une fois par mois, on crée des liens avant tout, de manière à pouvoir ensuite créer des synergies, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui justement avec Aurélie, parce que j'ai une casquette aussi trésorier dans l'association des parents d'élèves de l'école de mes filles sur Aubonne.
D'accord.
C'est le conseil des parents d'élèves autonomes et justement on met en place des projets pour récupérer de l'argent, pour générer de la trésorerie pour l'association, et avec cet argent on met en place des animations sur le temps périscolaire en partenariat avec la mairie. D'où l'intervention prochaine d'Aurélie, qui va permettre de sensibiliser les plus jeunes sur des gestes responsables. Et on parlait justement du public, mais là c'est bien parce que justement c'est des élémentaires qui vont être sensibilisés. Donc si plus on sensibilise tôt,
bien sûr,
plus ça aura d'impact par la suite.
Tout est dans l'éducation, c'est sûr. On sait qu'il y a quand même aujourd'hui toujours des freins pour vers l'économie solidaire et écologique dans le Val d'Oise. Comment pensez-vous vous les lever?
Ah oui, bah là, on échangeait tout à l'heure avec Magali, mais moi, j'ai une activité aussi commerciale où je vends du matériel de sport.
Oui.
Il y a la partie location qui est cumulée avec l'animation, mais j'ai aussi une activité commerciale pour avoir une œuvre vraiment qui soit complète. Et dans cette activité et dans la distribution de textiles personnalisés, je travaille avec les ZAD de Sannois. Donc c'est eux qui réalisent le marquage sur le textile personnalisé. On est en train de faire en ce moment une production pour des t-shirts pour la ville de Sannois, qui organise une fête des jeux prochainement. Et donc, en sollicitant des structures locales avec des personnes avec handicap, parce que vous savez que on a distingué la notion en situation de handicap avec handicap. J'avais entendu d'ailleurs l'ancien ministre l'évoquer. Et c'est vrai que ça a un intérêt justement de faire cette distinction. Mais en allant aussi à la rencontre de ces structures qui ont de fortes compétences et qui sont locales. Et justement, ça permet de pouvoir intégrer une notion RSE, une notion de solidarité.
Oui, oui. Non, mais vous avez raison. Il faut prendre ce problème dans sa globalité.
Oui, et puis au niveau local, Aurélie le disait, moi j'ai une activité qui est très locale aussi, parce qu'on a la chance d'avoir un département, une région très riche. Et en fait, au niveau local, on peut déjà créer beaucoup de choses. Je travaille en ce moment sur les goodies de fin d'année pour mes clients.
Oui.
Et plutôt que de fonctionner comme j'ai fait d'habitude, de commander des produits neufs, j'ai été mis en contact avec des structures des Yvelines, un ESAT et un centre Emmaüs, qui en fait recyclent des bâches.
Oui, c'est une bonne idée.
Après, je me suis dit, mais ça a trop de sens. Pourquoi l'acheter dans la surconsommation toujours? Les bâches, ça pollue. Eux, ils les récupèrent, donc ils empêchent une pollution. Ils les traitent, ils les recyclent et ils fabriquent différents goodies, des sacs à dos, des sacs, ça peut être des porte-clés autres, peu importe, des cartes de visite aussi. Ils font beaucoup de goodies différents et ça permet justement de faire travailler des structures locales qui ont besoin en termes de réinsertion, en termes de personnes qui vont avoir un handicap. Donc c'est bénéfique pour tout le monde.
Oui, là vous êtes en parfaite adéquation avec Aurélie, pour le coup.
C'est vrai qu'on a beaucoup de synergie tous les deux.
C'est ça, ouais.
Du local et du responsable.
Ouais. Et alors, si vous deviez lancer un appel aux habitants, aux entreprises, aux institutions pour soutenir vos initiatives, quel serait-il, Hugo?
Il faut lancer des projets, il faut prendre l'initiative. Alors c'est sûr, ça nécessite parfois, en tout cas, des moyens financiers, mais pas que. Et j'ai eu l'occasion de participer à une fête des sports sur la ville de Montlignon au mois de septembre, parce que le responsable du service des sports, Thomas Carvalho, a eu l'initiative de dire, sur notre ville, qui est dynamique, on n'a pas de fête des sports, donc on va organiser une fête des sports. Donc évidemment, il faut que derrière les élus politiques suivent,
ça a été le cas.
Mais il y a une fête des sports qui a été organisée, et donc on a travaillé ensemble sur ce projet, on a mis en place des ateliers, des activités sportives qui étaient ludiques et accessibles sur une journée, et ça a permis au-delà de l'aspect sportif et économique, ça a créé du lien aussi.
Bien sûr.
Les gens
se rendent
compte, les gens participent, les gens font du sport, donc il y a aussi le côté
puis
santé et bien-être.
C'est la ville de Magali, donc.
Exactement. Les locaux sont à Montlignon.
Bah voilà, on a voilà. Des villes très dynamiques. Je parle de fête des sports, on pourrait citer la ville de Cormeilles-en-Parisis, je citais Sannois tout à l'heure, c'est des villes qui sont porteuses de projets, mais il faut encore, voilà, il faut que d'autres villes, d'autres collectivités et d'autres entreprises, un peu comme pour lier avec ces ateliers éco-responsables, soient porteurs de projets. Il faut prendre des initiatives et il faut qu'il y ait des finances derrière, bien évidemment, et
toujours,
dans notre contexte, ça peut être aussi le nerf de la guerre, mais quoi qu'il arrive, on peut mettre en place des choses, il y a des moyens, il y a des moyens humains, il y a des moyens structurels, des moyens matériels, qui viennent aussi pallier parfois au manque ou aux limites des moyens financiers.
Vous avez créé votre activité quand
Officiellement en janvier 2024.
Oui, d'accord, donc c'est tout récent, visiblement vous avez l'air content de la progression.
Oui, je suis très très épanoui et je suis content parce que c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. Donc c'est pas un rêve qui se réalise, je vais pas aller aussi loin, mais en tout cas ça me permet de travailler, de joindre l'utile à l'agréable.
C'est ça.
Je prends du plaisir à travailler. Je prends du plaisir à partager avec des réseaux sur une activité qui est locale et à contribuer à l'activité de notre département et de notre région, même plus globalement.
Merci infiniment, merci à tous les deux pour être venus, enfin à Marie-Hélène aussi, mais qui nous a quittés parce qu'elle avait un rendez-vous de venir défendre Even Circle. On comprend que c'est une association en pleine puissance qui va probablement...
Les réseaux sont, je le dis, une force de frappe. Mais il y a un chiffre qui interpelle, c'est un chiffre qui a été donné par la CCI. On a aussi, je parlais d'initiative, mais on a aussi la CCI qui a un appui pour nous sur le département, la CCI du 95. Et il n'y a que 5% d'entrepreneurs qui ont adhéré à un réseau. Alors qu'on le disait, il y a beaucoup de réseaux.
Alors qu'il y a, je crois, il y a 2 ans, il y avait 70 réseaux sur le Val-d'Oise. Et je pense qu'il y en a peut-être plus aujourd'hui. Donc
ça s'est développé en effet, mais il n'y a que 5%. Donc, c'est en termes de communication, en termes de prospection et de développement d'activité, c'est une force de frappe.
Ben voilà, ça veut dire aussi que le champ est ouvert pour trouver des...
C'est une très belle opportunité.
Des nouveaux clients. Merci infiniment à tous les deux, à tous les trois avec Magali.
Merci à vous.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Alors il y a une petite tradition, un mot de conclusion pour chacun. Magali, je vous laisse nous donner un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Merci Jacqueline. Oui, écoutez, moi je suis ravie d'avoir fait de nouvelles rencontres, très intéressantes parce que ça peut aussi faire du lien avec le dispositif dont je suis venue parler. Je n'ai pas manqué de rechercher mes homologues sur le réseau, sur les réseaux sociaux.
Absolument. Merci Magali.
Merci.
Aurélie, un mot de conclusion.
Merci encore pour cette nouvelle invitation. Et je suis ravie d'avoir découvert une nouvelle activité également. Et puis je vais parler d'Event Circle. S'il y a des professionnels de l'événementiel qui nous écoutent et qui veulent rejoindre le réseau, qu'ils n'hésitent pas.
Vous avez raison de le dire.
Voilà.
Que faut-il faire alors?
Ils peuvent nous contacter par la page LinkedIn d'Event Circle. Ou contacter Hugo aussi, puisque c'est lui qui gère les invitations. Il l'a pas dit, mais
prochaine réunion d'invités le mardi 9
décembre. Le 9 décembre, voilà.
9 décembre, et c'est toujours chez Dreamaway.
Alors pas celle-ci, ce sera chez c'est chez L'Heure Rose à
Villiers.
Villiers-Adam,
de nos collègues.
Voilà, chez Agnès Cordier, voilà.
Je le mettrai dans ma petite publication que le prochain rendez-vous c'est le 9 décembre.
Voilà. Et puis parce qu'il y a des entreprises aussi qui cherchent des prestations d'événementiels. On peut leur proposer des événements.
C'est ça. Vous êtes aujourd'hui en capacité de proposer
à 25 membres. Effectivement, on a tout dans le réseau pour faire un événement.
Très bien. Eh bien, merci infiniment à tous les 4, puisque je remercie Marie-Hélène aussi d'être venue. Cette émission nous a rappelé que chaque projet, aussi modeste soit-il, peut avoir un impact profond sur notre société. Un grand merci à toutes et tous. Et puis, pour vos engagements, et puis votre engagement, puis votre énergie contagieuse. On sent que vous êtes complètement investi.
Merci
Francky pour la technique. Merci à vous tous, auditrices, auditeurs, de nous avoir écoutés. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la en podcast sur le portail de la radio 98.fr. Belle journée et bon week-end. À mardi pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Et surtout, restez à l'écoute de IDFM Radio pour découvrir nos autres émissions.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Et là, tu meurs.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas. D'un jour adopté, en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si la verse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis branle-la.
Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Ooh, talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. You
running.